Savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Savoir Plus. Cette semaine dans Savoir Plus, on revient sur l'édition 2019 du Culturathon, une édition qui s'est déroulée dans les locaux flambant neufs de la Louvre-Lens-Vallée les 12 et 13 décembre derniers. Pour rappel, un Culturathon, c'est une sorte de compétition un peu à la manière des hackathons en informatique où plusieurs équipes s'affrontent en travaillant sur un projet pendant 24 heures non-stop, voire plus. Ici, dans le cas de ce Culturathon, des étudiants, des artistes, des entrepreneurs, entre autres, qui ne se connaissaient pas forcément, se sont mis en équipe pour travailler durant 36 heures sur plusieurs projets, avec en filigrane un thème, expérience muséale et parcours sensoriel. Autrement dit, comment améliorer l'expérience de la visite dans les musées, comment rendre les expositions plus interactives, plus immersives, et c'est également la première étape d'une nouvelle forme d'accompagnement imaginée par les partenaires belges et français, le Flash Workout. Les explications avec Vincent Gariazzo, chargé d'accompagnement à la Louvre-Lens-Vallée.
Nouvelle édition du Culturathon avec comme thème cette année expérience muséale et parcours sensoriel. Alors pourquoi ce thème ?
Alors pourquoi ce thème-là ? Parce que pour la première fois, ce Culturathon est organisé avec des partenaires européens, donc wallons et flamands, des Belges. Donc on l'a dénommé Flash Workout Culturathon, et le thème, c'est le thème du dernier appel à projet qui a eu lieu avec nos partenaires wallons et flamands.
Alors effectivement, vous parlez de vos partenaires wallons, flamands. L'autre caractéristique de ce Culturathon 2019, c'est la participation au programme Interreg, alors C2L3 Play, qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah oui, alors c'est pas facile à comprendre. Alors ça veut dire Cross Border Living Labs. Hein, bon voilà, alors un Living Lab, c'est un peu un espèce de tiers-lieu, un centre d'innovation, on va dire. Et donc c'est les Living Labs de différents endroits, donc en Belgique et en France, qui se sont associés voilà, dans le cadre de ce projet destiné aux industries culturelles et créatives.
D'où viennent les participants ?
Alors les participants viennent principalement des Hauts-de-France, quasiment l'intégralité. On a quand même quelques Wallons et je crois qu'il doit y avoir un Flamand. Voilà.
60 participants dans ce Culturathon aujourd'hui, je crois.
C'est ça, une petite soixantaine. On a eu voilà, forcément des difficultés de transport un peu ce matin, donc quelques annulations de dernière minute, mais voilà, c'est des équipes de 5 à 6 personnes sur 9 projets qui sont travaillés aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu globalement des projets qui sont présentés aujourd'hui ?
Tout à fait. Alors, c'est des projets qui respectent la thématique qu'on a évoquée tout à l'heure, donc expérience muséale et parcours sensoriel. Je peux vous citer Overton, par exemple, qui est un projet wallon, où là, on est vraiment sur un scénario d'interaction. Vous êtes devant une œuvre, par exemple, dans un musée, par des systèmes de caméras. On va vous diffuser un contenu qui est adapté à votre profil. Vous êtes un enfant, un adulte, voilà, un ado. Suivant les mouvements que vous allez faire, le regard que vous avez porté sur l'œuvre, le contenu sera différent. Voilà. Je peux vous citer par exemple Big Boy Systems, où là on est sur de l'immersion à 360 degrés. Donc c'est être dans la peau d'un autre et vivre en vidéo et à un son très spatialisé son expérience. Par exemple, s'il regarde un match de foot, s'il pilote une voiture, ce genre de choses.
Alors, on parle cette année aussi de Flash Workout. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, Flash Workout, oui, anglicisme à définir. On va dire que c'est un marathon créatif. Voilà, un marathon créatif en 36 heures où on fait travailler ses étudiants, on anime tout ça. Et voilà, donc c'est Flash et c'est Workout comme l'atelier. Donc un atelier assez rapide, assez condensé, mais on l'espère le plus efficace possible.
Là, on est le mardi soir. Le Culturathon a démarré ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin ?
Alors dessus ce matin, ils ont fait un totem qui représentait, qu'on a appelé prototème, qui représentait un peu leur équipe, qui représentait le projet sur lequel ils allaient travailler. Et ensuite, ils se sont mis au travail vraiment à essayer de répondre à un défi que leur a posé le porteur du projet. Voilà, il y a une partie du projet qu'il fallait travailler. Et donc là, ils sont en cours de travail sur ce défi pour apporter la solution la plus imaginative et la plus réaliste, on va dire aussi.
Autre fait important, c'est la présence, en plus des jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets, de grands groupes. Pour quelles raisons les grands groupes s'intéressent-ils justement à ce Culturathon ?
Alors déjà, pour être mixé justement avec des startups, avec ces porteurs de projets assez innovants, pour vivre avec eux voilà, une animation assez créative où on va parler développement personnel, où on va parler culture au service de l'innovation. Donc c'est vraiment ça, ces grands groupes, ils viennent chercher ici des rencontres avec de jeunes entrepreneurs très créatifs, très innovants, sur un sujet qui qui finalement peut être un peu différent de ce qu'ils voient au jour le jour, parce qu'on est quand même sur expérience muséale et parcours sensoriel, donc c'est un peu iconoclaste pour des grands groupes. Donc ils viennent s'ouvrir l'esprit et voir un peu des choses différentes.
Et puis il y a aussi beaucoup de masterclass, comme là on vient de voir, effectivement, des expériences qui peuvent aussi aider toutes ces personnes justement à penser différemment leur projet.
Tout à fait, exactement. Alors des masterclass qui sont à la fois donnés par nos partenaires français, européens, donc je peux vous citer l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, située à Valenciennes, mais on a aussi Design Regio Courtrai qui a fait une conférence sur le design, et voilà des choses inspirantes comme un intervenant sur l'e-sport, ce genre de choses, donc des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Voilà.
Alors la suite de ce Culturathon, là ça va se passer comment ?
Suite, alors ce soir ils vont bien bosser, alors ils vont dormir quand même un peu, se garder de l'énergie pour demain. L'idée c'est que demain à 16h30 ils puissent présenter le fruit de leur travail, alors un prototype dans l'idéal, qui peut être un prototype relativement minimaliste à l'aide de carton, papier, etc. Et donc ils vont être jugés par un jury de 12 professionnels avec trois prix à la clé, donc des prix en numéraire qui se diviseront entre les participants de chaque équipe gagnante.
À l'instant sur Radio Plus, c'était Vincent Gariazzo, le chargé d'accompagnement à la Louvre-Lens Vallée. Vous êtes toujours sur Radio Plus dans l'émission Savoir Plus. On parle ce matin du dernier Culturathon, je vous rappelle, qui s'est déroulé les 12 et 13 décembre dernier à la Louvre-Lens Vallée. Parmi les porteurs de projets présents à ce Culturathon, Ludivine David, qui fait partie de l'association Choisis ta planète.
Ludivine David, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association Choisis ta planète ?
Oui, alors Choisis ta planète est une association qui initie les 8-12 ans aux objectifs de développement durable. Au sens large du terme, on va parler d'environnement, on va parler d'écologie, mais on va également parler d'accès à l'éducation, des égalités entre les filles et les garçons, des inégalités dans le monde. Voilà, c'est assez vaste et pour réaliser ces outils pédagogiques, on se base sur des outils audiovisuels qu'on a conçus avec les enfants de différents pays du monde. Donc ça va être du film, ou va être documentaire, en passant par le serious game, le jeu vidéo pédagogique.
Alors quel est votre parcours ?
Alors, à l'origine, je ne suis pas du tout du monde de l'audiovisuel. Moi, j'ai une formation d'urbaniste, aménagement du territoire. Et j'ai découvert cette association en cours de route, à peu près à ses débuts sur ce projet à l'international. J'ai tout de suite été accrochée par les valeurs qu'elle portait. Et du coup, je me suis investie d'abord en tant que membre. Et quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de complètement mettre ma vie professionnelle d'urbaniste de côté pour m'engager à temps complet en tant qu'intermittente du spectacle pour cette association. Donc au quotidien, on est une petite équipe à essayer de développer ces outils pédagogiques et aller tourner pour de nouvelles associations dans différents pays.
Vous êtes passé du coup par la Louvre-Lens Vallée également. Pour quelles raisons ?
Alors, on a découvert le Louvre-Lens Vallée il y a maintenant un an et demi en tant qu'incubateur culturel sur la région. Et on trouvait ça assez innovant puisque c'est un peu différent des autres incubateurs qui existent. Et c'était aussi une occasion de pouvoir profiter de leur expertise pour pouvoir se développer. Développer le projet, développer notre offre pédagogique concrète pour les écoles en France, voire à l'international par la suite. Et du coup, on a continué le parcours d'incuber en accéléré. Ça veut dire pour maintenant, aujourd'hui, déployer vraiment l'offre au maximum.
Alors aujourd'hui, vous participez au Culturathon. Quel est l'enjeu pour vous ?
Alors l'enjeu pour nous, comme je disais, on essaye de développer cette offre et aujourd'hui ce qui se passe c'est que tous nos outils sont complètement dématérialisés, mais que quand on a une rencontre en face à face avec un potentiel acheteur, en tout cas un professeur ou une école, il faut qu'on rende l'objet concret, en tout cas un peu plus physique, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec du coup les participants, essayer un peu de packager l'offre pour la rendre plus accessible.
Comment s'est déroulé l'accompagnement avec la Louvre-Lens Vallée jusqu'à présent ?
Alors l'accompagnement est très intéressant parce que finalement il y a un peu des experts qui viennent au fur et à mesure des rencontres et ce qui permet aussi de confronter les idées, apporter un regard nouveau sur notre projet, sortir un peu notre zone de confort pour pouvoir aller un peu plus loin et développer toujours plus, être toujours en recherche de nouveautés, en recherche d'innovation. Et c'est surtout sur l'innovation sociale que nous on se base par rapport au développement durable et au vivre ensemble, mais du coup c'est très intéressant aussi de confronter ces idées même à d'autres incubés ou d'autres accélérés avec nous.
Alors au niveau de vos interventions, au niveau scolaire, quelle thématique vous privilégiez plus précisément ?
Eh bien justement, on ne privilégie pas de thématique directement. C'est vraiment en fonction de la demande du professeur. Si un professeur travaille sur justement comment réfléchir en classe à la paix ou justement aux violences qu'ils peuvent avoir des fois, ou juste des manières de réfléchir entre les élèves, etc. Ben voilà, on a un film qui parle justement de la paix en Colombie, mais qu'on réadapte par rapport au contexte local ou au contexte français. Si on veut parler de l'égalité filles-garçons, on a aussi des films qui parlent de ce principe-là là, avec des enfants guinéens. Si on veut parler plus d'environnement sur la déforestation, l'accès à l'eau, on a aussi toute une panoplie de films. Et du coup, c'est vraiment adapté en fonction des besoins ou du programme scolaire. Parce que du coup, chaque outil est vraiment adapté au programme scolaire du cycle 3. C'est 8-12 ans, donc CM1, CM2, 6e.
Alors aujourd'hui, votre association Choisis ta planète, c'est combien de personnes ?
Eh bien, on n'est pas nombreux. on est encore référencé en tant qu'association étudiante, ce qui veut dire que dans notre équipe, on est deux pratiquement à temps plein pour assurer vraiment ce dynamisme au quotidien. Et après, c'est des étudiants qu'on essaye de former à la solidarité internationale et au monde du cinéma pour pouvoir les initier justement à des valeurs un peu plus solidaires, un peu plus justes, un peu plus durables. Et du coup, on est entre 10 et 15 membres au total.
Et donc actuellement, vous arrivez à intervenir dans pas mal d'écoles, d'établissements ?
Alors, on a passé beaucoup de temps à l'étranger pour réaliser les films, réaliser aussi les outils pédagogiques en France en co-construction avec des professeurs. Et aujourd'hui, on est justement dans cette phase de déploiement. Ce qui fait que ça prend quand même du temps à aller contacter école par école, professeur par professeur. Et oui, on a quelques interventions en Hauts-de-France. On fait aussi quelques interventions sur Paris grâce à d'autres structures référencées de l'éducation nationale. Et là, on essaye de déployer au maximum.
Pour terminer, si on souhaite vous contacter, comment fait-on ?
C'est très simple, on a un site internet choisitaplanète.com, très accessible, ou sinon après on a une adresse mail contact@choisitaplanete.com.
Ludivine David de l'association Choisis ta planète qui répondait à mes questions et qui était présente au dernier Culturathon de la Louvre-Lens-Vallée. J'ai également rencontré une lycéenne et un étudiant présent à ce Culturathon et qui s'apprêtait à dîner, histoire aussi de prendre des forces pour la suite.
Je vous laisse vous présenter.
Erin Blavis.
Alors vous venez d'où exactement ?
Je viens d'Avion, plus précisément je fais mes études à Lens. Je suis au lycée, moi. Je ne suis pas comme les autres qui sont à l'université, je suis au lycée.
Alors pour quelle raison vous êtes venue justement à ce Culturathon ?
Je suis en bac pro CEP, communication visuelle pour les médias, et nos professeurs nous ont conseillé le Culturathon pour nous développer au niveau professionnellement et culturellement pour nous développer. Et donc j'ai suivi leurs conseils et pour l'instant je regrette pas, c'est très bien, j'aime bien.
Qu'est-ce que vous avez apprécié là jusqu'à présent ?
Pour l'instant je suis dans une bonne équipe. J'ai eu des réunions avec plusieurs membres d'équipe, on a partagé, franchement c'est une bonne expérience à vivre avec les autres en équipe. Après on a parlé avec des vrais professionnels et tout, ils m'ont beaucoup appris au niveau professionnel et tout. Et surtout, il y a des bons trucs à manger.
Vous travaillez dans quel projet justement ?
Moi je suis dans le vitro vidéo, en gros on travaille sur une application. On cherche après le truc parce qu'on va améliorer le truc, mais en gros c'est une application qui permet d'utiliser la 3 dimensions pour expliquer à des gens les cultures générales. Voilà.
Moi je m'appelle Geoffrey Barriot, je suis en Master 2 Culture et Patrimoine et Innovation Numérique à l'Université de Picardie-Jules Verne à Amiens.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire justement à ce Culturathon ?
Alors, pour être sincère, cette année c'est obligatoire. L'an dernier ça l'était pas. Au début, on n'était pas trop chaud. Puis quand on est débarqué ici, on était tous un peu enjoués. On s'est dit, oh, finalement, ça va être une bonne expérience. Et même si c'est un peu dur, qu'il y a quelques tensions et tout, on essaye d'avancer quand même un peu dans le projet et tout.
Vous participez à quel projet, là, justement ?
Moi, c'est le projet 1. C'est avec Nicolas. Le projet, c'est Overtone. Nicolas a remarqué, il a constaté que dans les musées, il y a une mauvaise, entre guillemets, ouais, des grosses guillemets, consommation des œuvres d'art. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Joconde, il va y avoir tout un groupe, tandis que pour une œuvre, d'autres œuvres d'art seront négligées. Et en fait, le projet Nicolas consiste à réguler, à rééquilibrer cette entre guillemets consommation, et avec des capteurs, des caméras, et en visualisant, en analysant l'espace, il va pouvoir comprendre comment les flux de personnes se produisent, et ensuite, par la suite, il pourra proposer au musée des jeux de lumière, des jeux de son, pour pouvoir faire en sorte que les œuvres d'art qui sont négligées ne le soient plus.
Voilà, pour mieux les valoriser en fait.
C'est ça. Y a quand même pas mal d'œuvres d'art qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas assez mises en valeur ou mises en avant.
Donc du coup, vous travaillez avec des gens d'autres horizons. Comment ça se passe? Vous êtes un groupe de combien?
Alors, on est 6. Au départ, on était 7. Il y avait Salim, mais il y a eu un problème de rééquilibrage des équipes. Et du coup, il est parti dans un autre projet. Et il y a moi en master culture. J'ai une formation plutôt sociologique, de l'analyse des comportements, etc. Il y a 3 membres qui sont en informatique, en développement informatique à l'Epitech. Il y en a un autre, Issam, lui, il est en création d'entreprise, start-up. Et j'ai oublié le 6e. Ah, Pierre, voilà. Il a une entreprise à lui, une entreprise d'Escape Game. Du coup, ça va, en ce qui concerne la visualisation d'espace et tout, il peut être assez utile à ce niveau-là.
Et alors, vous disiez tout à l'heure, voilà, il y a quelques tensions, mais on essaye d'avancer, justement, de mieux se comprendre, etc. Sociologiquement, finalement, c'est intéressant, c'est super intéressant pour vous.
Sociologiquement, c'est hyper intéressant de voir comment les gens, enfin, certaines personnes vont se mettre en avant, d'autres vont se mettre à l'écart, et de voir quelle personne va faire en sorte de réduire ces tensions-là, et de voir comment ça va aboutir. C'est vrai que sociologiquement, je suis dans mon coin à observer et à voir comment ça se passe. C'est assez amusant.
Et alors, du coup, vous avez aussi pu bénéficier de masterclass, de choses qu'on vient voir, hein, auxquelles on assistait, ou on peut même voter apparemment. Hein, ça vous apporte des choses intéressantes aussi, d'autres points de vue. Ça permet d'enrichir justement votre expérience.
Alors, ça permet d'enrichir, sauf qu'on a très peu de temps. Enfin, c'est en un quart d'heure. Alors, déjà, on a... Souvent, nous, on prend peut-être 2-3 minutes à quand même bien expliquer le projet, à le fignoler, à détailler. Et franchement, on ne voit pas le temps passer, mais en un quart d'heure, on n'a vraiment pas le temps de tout expliquer. Et c'est vrai que vers la fin, vers les 3 dernières minutes, pas les présentateurs, mais ceux qui font les masterclass, ils ont un peu du mal, ils se disent faites ci, faites ça, mais j'aimerais préciser mon aide, mes conseils, mais ils n'ont pas trop le temps. Alors, ça serait bien que l'année prochaine, le Louvre-Lens puisse organiser des masterclass avec. Au moins 20 à 25 minutes, ce serait bien, je pense. Ce serait mieux. Enfin, pour nous, en tout cas.
Alors là, vous êtes parti quand même pour un assez long marathon, finalement, à 36 heures. Ça va, pour l'instant, pas trop fatigué, vous tenez le coup?
Alors, cette nuit, j'ai du mal à dormir. Donc, j'ai bu pas mal de jus de fruits et de vitamines pour tenir. Et je pense que, je suis quelqu'un qui dort pas mal. Du coup, j'ai dit aux membres de mon équipe, à minuit, je dors minimum 6 heures, 7 heures. Et ensuite, j'y vais. Mais je sais que mes compères en informatique, ils ont l'habitude de faire des nuits blanches, avec notamment s'ils appellent la piscine, l'Epitech. Ils ont dit, nous, on a l'habitude, on boit nos crises Tiger et on va travailler toute la nuit. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils vont avancer, mâcher le travail à notre place. Ça, c'est bien.
Quelques témoignages à l'instant de ce Culturathon 2019 qui s'est déroulé à Lens les 12 et 13 décembre dernier. Au final, le premier prix a été attribué au projet Insight Hocus Pendulum, le second prix à Overton dont on vient de parler et le dernier prix à Protomotech. Quant à l'association Choisis ta planète dont nous avons également parlé, elle a obtenu le prix coup de cœur du public. Allez, tout de suite un peu de musique avant de retrouver un autre sujet. Voici Yannick Noah avec Viens.
Gamin, écoute, faut que tu saches, on est soit voleur, soit volé, et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment, faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit regarde cet étang, des familles nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens, et dansent et dansent dans le vent. Petit regarde droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens, et dansent dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère qui ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini, tout est fric et frime, petite gloire. On confond rêve et jalousie, tout finira bientôt dans le noir. Les gens baissent les yeux ou les ferment. Faut être la brute et le truand. Ici tu aimes ou tu t'enfermes. Ah tu peux rire maintenant. Petit regarde cet étang. Des familles nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et danse dans le vent. Petit regarde droit devant. Les hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens. Et danse dans le vent. Mais allez viens. Y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez viens. Y'a pas que ta sœur que ta sœur. Mais allez viens. Y'a pas que ton frère que ton frère. Mais allez viens. Y'a pas que ta sœur que ta sœur. Y'a pas que ton frère que ton frère.
Yannick Noah à l'instant sur Radio Plus avec son tout nouveau single, ça s'appelle Viens et c'est sur Radio Plus. 11h passées de 22 minutes, nouveau sujet, tout de suite sur Radio Plus d'en savoir plus. On va parler de collège et d'orientation. Pendant le cursus scolaire d'un enfant, des stages en entreprise sont obligatoires en troisième et en seconde, mais est-ce suffisant pour décider de son avenir? Les établissements scolaires s'investissent de plus en plus dans la sensibilisation de leurs élèves au monde de l'entreprise par le biais d'actions variées. Et c'est aussi le cas du collège de Le Gorgue à Courcelles-lès-Lens. Un reportage signé Lucie Leclerc de Radio Plus.
L'entrepreneuriat et plus généralement la connaissance du monde de l'entreprise est un enjeu majeur pour les élèves de collège et de lycée, un âge où on leur demande déjà de choisir leur voie, leur orientation et même leur futur métier. Comment peuvent-ils procéder sans en connaître les facettes? C'est la raison d'être de différentes actions et initiatives comme l'action 100 000 entrepreneurs. Elle implique la venue d'un chef d'entreprise qui explique aux jeunes son parcours, son activité. Le collège d'El Gorgue de Courcelles-lès-Lens recevait mercredi 11 novembre dernier sa première intervenante de l'année. Monsieur Lou, référent école entreprise dans l'établissement, explique l'importance de la sensibilisation des jeunes au monde entrepreneurial.
Dans un premier temps, je suis professeur de technologie au sein du collège de Le Gorgue et effectivement, depuis 2 ans, j'ai la fonction de référent entreprise. C'est un titre qui est assez nouveau, qui existe maintenant depuis 3 ans, où dans chaque collège, logiquement, un référent école entreprise existe. Donc, c'est moi-même depuis 2 ans et on n'avait pas avant. Le référent école-entreprise a pour but justement de mettre en lien effectivement l'école et l'entreprise, faire des liens qui n'existent pas forcément par différents moyens, par le biais justement comme ces actions-là, 100 000 entrepreneurs qui permettent justement à des entrepreneurs de venir expliquer un petit peu leur projet professionnel, également en effectuant des visites d'entreprise, en participant éventuellement à des forums des métiers, etc. Donc c'est tout un tas de projets qui peuvent être mis en place dans le cadre de cette fonction-là. Donc l'an passé, on a réalisé 2 actions qui étaient donc celles qu'on va réitérer cette année de 100 000 entrepreneurs où justement un entrepreneur vient expliquer un petit peu aux élèves eh bien, son parcours professionnel, l'entrepreneuriat en général. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet aux élèves justement de découvrir un petit peu des métiers qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et également autour de cette démarche d'entrepreneuriat où ça peut effectivement les inciter justement plus tard à pourquoi pas entreprendre également. Et donc on va réitérer cette action cette année et cette année on a la chance d'avoir une personne qui va présenter son association parce que l'entrepreneuriat ce n'est pas forcément que professionnel, ça peut être dans le cadre d'une association et elle va nous représenter un petit peu son parcours professionnel et puis les difficultés effectivement qu'elle a pu rencontrer durant son parcours. Elle présente une association concernant l'insertion professionnelle des personnes atteintes de sclérose en plaques. Donc pas toujours facile, donc elle s'occupe un petit peu de ça. Et puis en parallèle, elle a également un projet d'entrepreneuriat qu'elle va également expliquer aux élèves. Donc ça fait un petit peu une double casquette. L'association, donc c'est également entreprendre, et également eh bien, son action professionnelle qu'elle compte mener dans les années à venir.
Donc là, la création d'une entreprise.
Effectivement, oui, la création d'une entreprise et la création de son association, la présentation de son association également.
C'est quoi le rôle exact d'un référent école-entreprise? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Bah, concrètement, on essaie de créer des liens, d'accord, ramener des choses. On ne va pas forcément s'occuper de l'action, hein, parce qu'on est juste des intermédiaires. Hein. Nous, au sein du rectorat, on a tout un tas d'actions qui sont proposées. Et nous, justement, on va faire le lien entre l'école et les entreprises en proposant éventuellement à des collègues des choses qui peuvent être intéressantes. L'entrepreneuriat au féminin, je pense à ça pour cette année, d'accord. Plein d'actions. Et puis, selon nos attentes également, par rapport à nous aussi, à nos attentes, on choisit un certain nombre de projets qui sont susceptibles d'intéresser les élèves et également les enseignants pour qu'effectivement, ils s'y investissent parce que tout part de là. Pour l'instant, les actions que j'ai proposées jusqu'à présent, c'est moi qui les ai menées. Mais bon, à l'avenir, on va plutôt partir sur un tableau d'affichage où seront proposées tout un tas d'actions et puis tous les professeurs seront amenés effectivement, selon leurs affinités avec le projet, à éventuellement s'inscrire dans cette démarche.
Pourquoi vous, comme référent école-entreprise ?
Bon, on a proposé à divers professeurs de la fonction. Puis historiquement, les professeurs de technologie ont toujours eu un lien un petit peu avec l'entreprise. Donc ça s'est fait naturellement. Puis moi, ça, effectivement, avoir cette double casquette et puis pouvoir essayer de ramener un petit peu ce qui se fait à l'extérieur à l'intérieur du collège, ça m'intéressait. Donc voilà, je me suis proposé. Puis ça fait 2 ans que ça dure maintenant. Et puis ça se passe plutôt bien.
Votre participation à cette action est assez jeune. Comment ça s'est passé et pourquoi avoir décidé de vous investir là-dedans ?
Bah, c'est assez jeune. Bah, déjà, la fonction de référent école-entreprise est assez jeune. Elle a 3 ans maintenant. Nous, on s'est inscrit dans cette dynamique depuis 2 ans. Justement, on est amené à être formé. J'étais encore en formation hier là-dessus. Où on nous propose justement tout un tas de choses qui sont mises en place. Et au gré de nos affinités avec les diverses choses qui sont proposées, à nous de choisir éventuellement des actions qui sont susceptibles justement de coïncider un petit peu avec nos attentes. Et moi, j'ai trouvé justement cette action-là qui nous avait été présentée déjà l'an passé plutôt intéressante dans la mesure où l'entrepreneuriat, ça peut intéresser beaucoup d'élèves. Entreprendre par soi-même, créer, etc. Donc ça peut également ouvrir des horizons à certains élèves, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. L'an passé, on a eu également la chance d'avoir un entrepreneur qui avait également la double casquette, hein. C'était une personne handicapée, non-voyante et entrepreneur. Donc ça nous a permis également de travailler sur 2 thèmes différents, c'était plutôt intéressant. Donc vu la satisfaction et le retour des élèves qu'on avait eu, on a décidé de la réitérer cette année.
Un engagement impulsé par le rectorat dans toutes les académies de France, notamment en Hauts-de-France. En plus d'encourager les démarches, il met en place et propose certaines actions comme l'action 100 000 entrepreneurs en mettant à disposition des établissements des contacts d'entreprises. L'objectif, c'est de répondre à la demande de certains collèges vis-à-vis de certains secteurs et en tenant compte des situations géographiques. Grâce à ce soutien, M. Lou réfléchit déjà à ce qu'il peut mettre en place dans les mois et années futures.
Nous, en tant que référent école-entreprise, on doit rendre des comptes. C'est-à-dire, j'ai plus le nom de la directive ministérielle, mais c'est pour cette année. Dans chaque collège, on devra avoir un petit peu comme le projet d'établissement, un projet sur l'orientation en général. Et ça s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Et nous, on doit rendre des comptes en disant, voilà, dans le collège, on a mis ça en place, cette action-là. Donc, c'est pas que, je vais dire, entre parenthèses, du bénévolat. On a vraiment des attentes au niveau hiérarchique pour justement impulser une nouvelle dynamique qu'on n'avait pas jusqu'à présent.
Il y a un quota à respecter du nombre d'actions à mettre en place ?
L'an passé, on nous en a imposé 2. C'était la première année, on nous a dit que ce serait bien que vous mettiez au moins en place 2 actions. Donc, on est parti sur 100 000 entrepreneurs et une autre action qui était Cap vers l'industrie, qui est une action un petit peu plus longue, mais qui est tout aussi intéressante, où là, elle se fait en plusieurs temps avec un entrepreneur, un chef d'entreprise qui vient présenter son entreprise à l'école. Donc, on fait venir l'entreprise à l'école. Ensuite, dans un deuxième temps, les élèves vont dans l'entreprise pour découvrir l'entreprise. Et dans un troisième temps, les élèves vont devoir réaliser un rapport d'étonnement sous forme diverse, vidéo, diaporama, etc., qui vont présenter dans un quatrième temps devant tous les chefs d'entreprise qui ont accepté justement de participer à ce projet, devant des chefs d'établissement, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. On l'a mis en place l'an passé, on compte le remettre en place cette année. Et sans le savoir, il y avait des choses déjà qui étaient mises en place au collège qui entrent tout à fait dans ce cadre-là, comme par exemple, on a une action ici au collège qui propose aux parents volontaires de venir présenter au sein du collège leur métier. L'an passé, on a eu des médecins, des plombiers, etc., qui sont venus au collège pour présenter justement leur métier. Ça, c'est tout à fait intéressant. Ça permet aux élèves, par le biais de cette action-là, de découvrir tout un tas de métiers. Cette action-là, vous voyez, c'est pas moi qui l'ai impulsée en tant que référent, mais elle se faisait déjà au collège. Donc, elle entre tout à fait dans ce cadre-là et on va pouvoir donc la labelliser. C'est-à-dire, labelliser, en fait, c'est tout simplement répertorier tout ce qui est fait au sein du collège dans le cadre de ces actions école-entreprise.
Comment ça se passe pour choisir l'action, décider de la mettre en place, choisir l'intervenant si c'est une intervention, choisir le forum, si c'est un forum ?
Comment ça se passe pour choisir? Déjà, comme je vous ai dit, il y a tout un tas de choses qui nous sont proposées. On va les piocher selon nos affinités justement avec les projets qui sont proposés. Et ensuite, libre à nous de proposer ça à des professeurs qu'on pense être capables de mener ces actions à bien. Comme je l'ai dit, pour l'instant, dans la mesure où c'est tout nouveau, je m'occupe pour l'instant en tant que référent d'impulser également, de mettre en place ces actions-là. Mais bon, effectivement, à terme, c'est de faire justement intervenir des professeurs d'histoire géo, des professeurs de français. Ça a déjà été le cas un petit peu avec l'action Cap vers l'industrie. On a fait intervenir des profs de français justement pour préparer les élèves à l'oral. Ça permet également de faire travailler les élèves sur des compétences de français, mais d'une autre façon, tout en découvrant l'entreprise. Donc c'est plutôt intéressant, effectivement, comme démarche.
Et c'est vous qui sollicitez les entreprises? C'est les entreprises qui vous sollicite?
Non, à ce niveau-là, on ne choisit pas. On n'a pas encore un tissu d'adresse sur des entrepreneurs qu'on peut faire venir, tout simplement. Il y a tout un tas de facilités qui sont mises à notre disposition, c'est-à-dire que nous, on s'inscrit dans le cadre d'un projet. Il y a toute une équipe derrière qui va justement faire le lien entre l'école et l'entreprise en proposant une entreprise qui se trouve de préférence à proximité pour limiter les déplacements et qui va faire également le lien éventuellement pour financer également les déplacements. Donc, il y a toute une équipe qui travaille justement à faciliter ces liens entre l'école et l'entreprise. Nous, on a juste à aller piocher les bonnes actions, les mettre en place au sein du collège, faire en sorte que tout se passe bien, essayer de mobiliser un maximum de professeurs. Sinon, au niveau logistique, je vous avouerai qu'il y a une équipe au niveau du rectorat qui travaille super bien et qui fait bien les choses. On a très peu de choses à faire à ce niveau-là, ce qui est très bien d'ailleurs.
Des actions et activités fortement appréciées par les élèves de 4e, donc les principaux bénéficiaires de cet engagement à Courcelles-lès-Lens. Elles leur permettent de sortir de leur routine, de découvrir concrètement ce à quoi peut ressembler leur futur et surtout leur donner des pistes pour les stages de 3e et de 2e. Au cours des différentes actions, Monsieur Lou a noté un important investissement de leur part.
On se rend compte que, en sortie du collège, les élèves n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils ne savent pas ce que c'est que l'industrie, l'entreprise. Et donc ça leur permet, en plus du stage qu'ils sont amenés à réaliser en classe de 3e, d'en découvrir un petit peu plus sur le sujet.
Est-ce que ces interventions-là ont un impact sur leur travail ou alors sur leur motivation ?
Sur leur motivation, déjà, effectivement, sur l'action Cap vers l'industrie, on a beaucoup travaillé sur, justement, dans la mesure où les élèves étaient censés rédiger un rapport d'étonnement, ils ont dû présenter à l'oral. Il y avait plus de 500 participants ce jour-là. Ça a permis vraiment de forger un certain nombre de compétences, justement, liées à tout ce que nous, on leur demande, tout ce qu'on attendait au collège. Donc, c'est des élèves forcément qui seront mieux préparés que d'autres, par exemple à l'épreuve d'oral de brevet qui aura lieu en fin d'année pour eux, vu que c'était des élèves de 4e qui sont actuellement en 3e cette année. Je pense que cette expérience-là va leur servir, indépendamment du fait qu'ils ont pu découvrir l'entreprise, et surtout c'était un domaine de l'industrie, donc ça a pu casser également des clichés, hein. Pas dire que l'industrie c'est sale, c'est des métiers éprouvants, on y va à reculons. Non, effectivement, on a vu des personnes qui étaient joyeuses, intéressées, des locaux propres, des métiers intéressants, des métiers d'avenir également. Donc ça a permis également de casser tout un tas de clichés que les élèves pouvaient avoir justement sur l'industrie. L'an passé, sur les deux projets sur lesquels on a travaillé, les élèves étaient plutôt volontaires. De toute façon, on est parti sur la base du volontariat, surtout sur l'action Cap vers l'industrie où les élèves étaient censés se présenter. Effectivement, on ne va pas obliger des élèves qui ne sont pas capables de le faire de présenter un diaporama devant 500 personnes. Donc là, c'est parti sur la base du volontariat. On n'a vraiment eu aucun mal à recruter une dizaine d'élèves pour faire la prestation et ça s'est très très bien passé. Pourquoi les classes de 4e? Parce que vous savez qu'en classe de 3e, il y a des échéances, il y a tout un tas de choses. Donc on n'a pas forcément autant de temps et les échéances sur l'orientation arrivent très vite. Donc déjà, leur ouvrir l'esprit un petit peu sur tout ça en 4e, c'est plutôt pas mal et c'est peut-être plus intelligent de le faire en classe de 4e plutôt qu'en classe de 3e où il y a beaucoup d'échéances. Déjà, on leur demande d'avoir des orientations déjà choisies, réfléchi, donc y avoir réfléchi au préalable, c'est pas plus mal.
Et pourquoi pas commencer cette sensibilisation dès la 5e?
Oui, effectivement, après c'est des actions, voilà, on en a notre 2e année, effectivement, pourquoi pas impulser? De toute façon, c'est la dynamique qui est impulsée depuis 2-3 ans maintenant, hein, où déjà dans tous les collèges de France, logiquement, on a référent école-entreprise, donc ça n'existait pas encore il y a 2 ans, donc il y a vraiment une dynamique à ce niveau-là, justement, parce qu'on s'est rendu compte que en France, il y avait beaucoup de lacunes à ce niveau-là, hein. L'entreprise, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout concret pour les élèves, et par le biais justement de ces différentes actions-là, on va essayer justement d'impulser une nouvelle dynamique, et puis de faire découvrir un petit peu plus le monde de l'entreprise aux élèves, et pourquoi pas effectivement dès la classe de 6e avec d'autres actions éventuellement.
Des échanges donc qui permettent de motiver les élèves à travailler pour leur futur, à réfléchir sur leur avenir, mais aussi et surtout à les sensibiliser à des problématiques plus diverses comme la sclérose en plaques ou la cécité, ou même casser les clichés du secteur de l'industrie par exemple, en fonction du but des entreprises ou associations que viennent présenter les intervenants.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà pour cette émission, ce reportage signé Lucie Leclerc de Radio Plus. Allez, tout de suite, c'est William Scheller qu'on va retrouver avec les filles de l'Aurore. Et juste après, ce sera l'actualité du département.
Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver. Elles ont autour du corps de l'amour et de l'or que l'on peut jouer au dé. Elles ont au fond des yeux des rêves que l'on ignore. Quand vous dormez encore, quand l'aube les voit passer par deux, et moi je viens après l'aura, quand le soleil monte à Saint-Jean, je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Les garçons de l'aurore glissent leur corps dans des jeans usés. Ils passent des doigts nerveux dans leurs cheveux et s'en vont tout.
Avec les filles de l'Aurore sur Radio Plus. 11h passées de 39 minutes, on passe à l'actualité départementale.
We'll be right back.
département du Pas-de-Calais a, vous le savez, l'obligation de gérer, comme tous les départements de France, les routes départementales. Et ce sont trois nouvelles routes ou tronçons qui ont été inaugurées l'an dernier. Du côté du village de Bune, près de Lillers, sur la route départementale 916, un contournement a été réalisé, ce qui a permis de désengorger ce village qui était traversé quotidiennement par plus de 7000 véhicules, dont 10% de poids lourds. Coût de ce chantier, 11 millions d'euros. Autre route inaugurée, la rocade sud d'Arras, un chantier qui a duré 3 ans, une route qui devrait changer la vie des habitants des communes de Dainville, d'Achicourt, de Wailly et d'Agny. Cette nouvelle route de 4,6 km propose également, fait notable, une belle piste cyclable. Et puis, plus proche de Douvrin, la mise à 2x2 voies de la route départementale 301 à Aix-Noulette, un chantier particulièrement délicat avec une étape impressionnante à la mise en place d'un nouveau pont au-dessus de l'autoroute A26 pour permettre la mise en 2x2 voies de ce tronçon situé entre l'A21 et la départementale 301 et qui faisait office jusqu'à présent de véritables goulets d'étranglement. Depuis que ce chantier s'est achevé, il n'y a plus de bouchons à cet endroit. Un chantier qui a coûté près de 14 millions d'euros et qui a été cofinancé par l'État et le département du Pas-de-Calais. Pour 2020, le département va consacrer 88 millions d'euros pour l'entretien et le développement du réseau routier. Et ce sont au total 651 agents qui s'occupent de cet entretien. Des agents qui doivent gérer pas moins de 6200 km de route. Le budget 2020 du département du Pas-de-Calais a été voté le mois dernier. Le conseil départemental du Pas-de-Calais s'est réuni le lundi 16 décembre sous la présidence de Jean-Claude Leroy. Un budget qui, d'après l'exécutif, apporte plus de solidarité. Solidarité avec les habitants, solidarité avec les territoires, quand bien même, je cite, les décisions de l'actuel gouvernement réduisent sa capacité d'action. Fin de citation. Un budget de 1,8 milliard d'euros, plus de la moitié du budget est consacré aux solidarités. Accompagnement des personnes âgées, protection des enfants et des familles, insertion, emploi et développement durable ou encore prise en charge du handicap. Voici OMD avec Electricity sur Radio Plus. Ah, c'était bon ça, Rod Stewart avec Do You Think I'm Sexy sur Radio Plus. Et encore un petit peu d'actualité départementale. On va s'intéresser à la ville de Douvrin dans cette émission. Et oui, puisque le mercredi 18 décembre dernier s'est tenue sur le site PSA de Douvrin une cérémonie pour la signature de 15 emplois francs. La cérémonie s'est déroulée en présence de Pôle emploi et de Franck Boulangeon, le sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Pas-de-Calais. Les 15 bénéficiaires, tous issus de quartiers politiques de la ville, ont été recrutés pour 11 d'entre eux par contrat de professionnalisation et 4 ont été embauchés en contrat à durée indéterminée. Pour rappel, le dispositif des emplois francs consiste en une aide de l'État, 15 000 euros sur 3 ans pour la signature d'un CDI ou 5 000 euros sur 2 ans pour un CDD d'au moins 6 mois aux employeurs qui embauchent des habitants issus des quartiers politiques de la ville. Un dispositif qui rencontre visiblement du succès. En effet, alors que l'objectif initial était de 485 emplois francs sur l'année 2019, le nombre de recrutements s'élevait à 860 au 30 novembre dernier. Un nouveau centre d'examen du permis poids lourd sera inauguré prochainement à Dainville pour assurer l'examen des permis poids lourd. L'État s'appuie dans le département sur 3 centres qui se situent à Saint-Laurent-Blangy, Marc-en-Calaisis et Le Portel. Le centre principal situé à Saint-Laurent-Blangy concentre à lui seul 65% de l'activité. Il a fait passer le permis à 1983 candidat en 2018 et il est distant de plus de 100 km des deux autres et c'est la raison pour laquelle en fin 2018 la communauté urbaine d'Arras a souhaité mettre un terme à la convention de location du centre de Saint-Laurent-Blangy et a cherché un nouveau terrain et donc le choix s'est porté sur Dainville. Ce chantier va coûter c'est une estimation encore plus d'un million d'euros 1 146 000 euros et devrait être opérationnel d'ici quelques mois. En réalité, il est déjà opérationnel. Ce site, ça a coûté effectivement de l'argent, mais ça a permis d'améliorer les choses côté passage du permis poids lourd. Voilà, c'est la fin de cette émission. Savoir plus, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le podcast de cette émission à partir de cet après-midi sur le www.radioplus.fr. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée à l'écoute de Radio Plus. Dans quelques instants, vous aurez rendez-vous avec le Flash Info sur Radio Plus.